إن البرايا بيسرها تفرح
Depuis le 22 novembre 1982, à Soufanié, l'un des quartiers chrétiens de Damas, des événements exceptionnels se succèdent à un rythme étonnant. Au cœur de l'islam meurtri par des guerres fratricides et une économie exsangue, Dieu ne nous provoquerait-il pas à l'absolue des béatitudes ? L'impensable se produit effectivement à Damas. Librement, des musulmans et des chrétiens, en dehors de toute institution, s'agenouillent côte à côte, épris d'un même cœur. Est-ce le doigt de Dieu qui s'est posé sur le vieux quartier chrétien de Soufanié, à Damas ? Il convient tout d'abord de présenter les quatre personnages clés de cette affaire de Soufanié. Les voici dans l'ordre où nous les avons rencontrés à Damas. Tout d'abord, le père Elias Zahraoui, universitaire et prêtre. Il est âgé d'une cinquantaine d'années. Entre autres activités, il est le curé de la paroisse Notre-Dame de Damas, de rite grec-catholique. Il est l'animateur de la plus grande chorale de la capitale syrienne, qui a fait une tournée en Europe il y a quelques années. Il est aussi membre de plusieurs organismes culturels. Le père Zahraoui nous a présenté au père Malouli, une grande figure de Damas. Âgé de 74 ans, il a enseigné au collège lazariste de Babtouma. Il est très aimé de ses milliers d'anciens élèves, et pourtant, il a la réputation d'avoir été un professeur très sévère. En 40 ans, il a été amené à combattre violemment, m'a-t-on dit, plusieurs manifestations que certains avaient présentées comme surnaturelles. Nous entendrons les témoignages de ces deux prêtres au cours de ce reportage. Il convient de préciser que ces deux clercs n'étaient pas disposés, de par leur caractère et leur culture, à accueillir ces manifestations de Damas. À Soufanié, nous avons rencontré Myrna et Nicolas. Myrna, surnom de Marie, était âgée de 18 ans au début des manifestations. Elle était mariée à Nicolas depuis 6 mois, Nicolas, son aîné d'une vingtaine d'années. Ils sont un couple sympathique et avenant. Ils ont eu un enfant il y a une dizaine de mois. Nous avons même d'ailleurs assisté à son baptême le 16 juillet. La fillette porte le joli prénom de Myriam. Nous nous sommes inquiétés, auprès de plusieurs médecins, d'obtenir leur avis sur Myrna. Mais rien n'a remarqué. L'un d'eux, non sans humour, a ajouté « Myrna est désespérément normale ». Mais revenons en arrière. Tout a commencé le 22 novembre 1982. Myrna, avec d'autres femmes, était auprès de sa belle-sœur, prénommée Leïla, qui souffrait de douleurs aiguës qui la faisaient crier. Les femmes ont décidé de prier. Au cours de la prière, les mains de Myrna se sont recouvertes d'huile. La première surprise passée, elles se sont enduites de cette huile. Les douleurs de Leïla ont cessé instantanément. Quelques jours plus tard, ce sera la mère de Myrna dont les douleurs seront soulagées par cette huile. Le 27 novembre, Myrna verra se former des gouttelettes de la même huile sur une petite reproduction d'une icône de 9 cm sur 6. L'événement, vous l'imaginez, se répand comme une traînée de poudre à travers Damas et de nombreux curieux se précipitent. La police secrète en a eu vent et envoie pour enquêter deux policiers accompagnés d'un médecin. Rappelons que nous sommes dans un État socialiste et, à l'époque, la Syrie connaissait une tension aiguë à cause de la crise économique. Tout rassemblement était donc interdit, les contrevenants étant sévèrement réprimés. Précisons, à l'avantage du président Hafez el-Assad, que l'État syrien respecte les convictions religieuses de chacun et il n'existe pas de tension entre les différentes religions. Pourtant, nous ne sommes qu'à 70 kilomètres du Liban. Deux policiers ont demandé à Myrna de se laver les mains en leur présence. Et ils lui ont remis des mouchoirs en papier pour les sécher. Ils se sont plantés de chaque côté de la jeune femme et un médecin s'est placé devant elle. Ils lui ont intimé l'ordre de prier. Si ces manifestations étaient d'ordre céleste, c'était le moment ou jamais que le ciel se manifeste. Et alors les mains de Myrna se sont recouvertes d'huile à la stupéfaction des trois hommes. L'un des policiers a examiné la petite icône, certains ayant affirmé que l'huile était menée par de petits tuyaux. Pendant l'examen du policier, des petites gouttes d'huile se sont formées sur l'image. L'homme a frémi et a reposé avec respect la petite icône. Depuis novembre 1982, ce sont des milliers d'icônes identiques qui ont exudé de l'huile à travers la Syrie, le Moyen-Orient et maintenant à travers le monde. Il a été remarqué que la manifestation se répandait à la façon d'une onde concentrique. De nombreuses guérisons non expliquées ont été enregistrées. Des dossiers médicaux bien documentés ont été constitués par le père Malouli. Et voici le témoignage de Madame Alabi.
Moi, depuis toujours, j'avais un culte pour la Vierge. Bien des faits me sont arrivés avec la Vierge. Elle m'a accordé beaucoup de grâce. Lors du miracle de Soufanié, il y avait un an que je ne pouvais plus bouger mon bras. J'avais subi 22 séances de physiothérapie. Ma belle-sœur est venue me dire que la Vierge apparaissait à Soufanié à une dame qui s'appelle Myrna. Elle me propose d'y aller. Elle m'a aidée à revêtir mon manteau et nous y sommes allés ensemble. On y priait. J'ai pleuré. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être l'ambiance de piété. Tout le monde priait. Je m'agenouillais et je dis à Myrna que je ne connaissais pas. « Que Dieu vous garde. Donnez-moi un coton de la Vierge. » Elle m'a dit, « Mais il n'y a pas de coton. » Je lui dis, « Ça ne fait rien. » Elle me donna un coton sec que j'ai avalé. On a prié. Après la prière, je rentrais à la maison avec les gens qui m'accompagnaient. En route, j'ai eu à la bouche un goût d'huile, mais de l'huile bonne. Je décidai donc de ne pas manger ni boire pour garder ce goût à la bouche. Arrivée à la maison, je priais et je m'endormis, sans avoir rien mangé ni bu. Le matin à mon réveil, j'ai l'habitude de boire du café. Inconsciemment, j'ai tendu la main vers la cafetière pour la mettre sur le feu. C'est alors que je me suis rendu compte que je remuais mon bras malade. Je le bougeais. Plus rien, grâce à Dieu. Immédiatement, je m'agenouillais. J'embrassais le sol et je remerciais le Seigneur. La Vierge a fait un miracle. Je suis allée au salon où depuis toujours j'ai placé l'image de Saint Élie et une petite image de la Vierge devant lesquelles j'allume un bâton d'encens. J'ai loué le Seigneur, comblé de joie, et j'ai repris mon travail ménager. Mon mari s'est réveillé. Je lui ai servi le café avec le bras malade. Il m'a regardé surpris et il m'a dit « Avec quel bras ?» Je lui ai répondu « Avec celui-ci, le bras de la Vierge, que la Vierge a guéri. » Il a éclaté en sanglots. Je lui ai dit « Voyez mon bras. » Je bougeais mon bras de haut en bas. Très ému, il n'a pu que répéter « Dieu soit remercié, Dieu soit loué. » Il en était très heureux. Pour ma part, quelques jours après, je sentais que quelque chose me poussait à aller remercier la Vierge à Soufanié. Je m'y suis rendue. Il y avait beaucoup de monde au point que je n'ai pas pu entrer. J'ai attendu une, puis deux heures. Il n'y avait rien à faire. Je suis repartie à la maison. Le lendemain, même chose. Mais quelque chose me poussait de tout cœur d'aller visiter la Vierge et la remercier. Je la remerciais de la rue. Mais j'ai ressenti le devoir d'entrer. J'ai dit à ma fille Roulana, « Ma petite, dis au père Zarlaoui que moi, la Vierge m'a guérie et je veux aller remercier la Vierge. Mais je n'arrive pas à entrer. » Il m'a fait dire de venir à 19h et qu'il me ferait entrer. J'y suis allée et j'ai expliqué au père ce qui m'était arrivé. J'avais une calcification à l'épaule qui m'empêchait de bouger le bras depuis un an et la physiothérapeute Soumaya Touma avait dit que cela finirait par la paralysie. Il n'y avait aucun espoir de guérison. Je ne le savais pas. Le médecin ne l'avait affirmé qu'à ma famille. Et voici que du jour au lendemain, j'étais guérie. Pour moi, c'était un grand miracle. Le Seigneur en soit béni. Par la suite, le père Zarlaoui me fit savoir de faire une radiographie de mon bras. Il voulait savoir aussi s'il y avait des radiographies d'avant la guérison. J'en possédais. J'avais aussi les ordonnances des médecins. Je refusais, croyant que c'était une façon de douter de la Vierge. La Vierge m'a guérie. Cela me suffit. Je ne veux pas douter de la Vierge. Le père a insisté en disant « Il faut faire la radio. C'est un service à rendre à la Vierge. » J'acquiesçais. Et j'ai fait faire la radio chez le docteur Waïd Sawaf. Résultat, plus de calcification. Un an après, le père me dit « J'ai une conférence à faire. Faites une radio chez le docteur Elias Georgi, où j'avais fait les premières radios. » J'allais voir le docteur Georgi, qui a tout d'abord refusé de me radiographier en disant qu'une calcification ne disparaît pas. Je lui dis que la calcification avait disparu et mon bras était guéri. Il me dit que cela était impossible. Je lui dis que pour Dieu et la Vierge, il n'y a pas d'impossible. Moi, je suis, grâce à Dieu, guéri. Vous ne voulez pas me faire une radio? Allez, faites-moi cette radio et vous verrez. Il a finalement accepté de faire la radio et me dit « Mais il n'y a rien, ni calcification, ni rien. » Je lui dis « Je vous l'avais bien dit. La Vierge a fait un miracle avec moi et m'a guéri. » Depuis ce moment, je poursuis mon travail ménager et je fais tout sans aucune souffrance. Le Seigneur soit loué. Je viens de faire une nouvelle radio. La guérison a eu lieu il y a 3 ans. Non, 4 ans. Oui, de fait, 4 ans. Et c'est la 4e année. La nouvelle radio a montré qu'il n'y avait toujours rien. Dieu soit loué.
Il ne nous est pas possible, dans le cadre d'une telle enquête, de vous donner tous les témoignages que nous avons recueillis, tellement ils sont nombreux. Citons encore cet enfant de 10 ans, paralytique de naissance, qui est sorti de la maison de Soufanié en courant. De ce vieil homme grabataire, depuis plus de 15 ans, qui a tenu à être transporté pour prier devant l'icône. Il est reparti chez lui en marchant, sans autre aide que celle de la grâce qu'il venait d'accueillir. Une jeune fille de 22 ans, poursuivant ses études en France, s'était portée volontaire pendant des vacances scolaires à Damas pour accueillir les très nombreux visiteurs à Soufanié. Elle nous a rapporté avoir été témoin d'une dizaine de guérisons en moins d'une semaine. L'une d'elles est bouleversante. Un couple est arrivé devant la maison, portant dans leurs bras un bébé de 2 ans, paralysé de naissance. La foule était tellement dense ce jour-là qu'ils n'ont pas pu approcher l'icône de la Vierge Marie. Ils étaient désespérés. En partant, ils ont confié le bébé à la prière de la jeune fille qui nous rapporte l'histoire. Pour ouvrir la porte de son automobile, le père pose son petit enfant sur le capot. Mais voici que l'enfant se lève seul. Le père le rassoit. L'enfant se met à nouveau debout. Le manège se répète plusieurs fois. Les larmes de douleur de ses parents se sont transformées en larmes d'allégresse, en cris de joie, qui ont été repris par toute la foule qui a entonné des cantiques joyeux en l'honneur de la Vierge Marie. Ce qui est remarquable, c'est que ces guérisons profitent indifféremment à des chrétiens et à des musulmans. Des chrétiens et des musulmans priant côte à côte, alors qu'à quelques dizaines de kilomètres, d'autres s'entretuent sauvagement. C'est le point qui nous avait le plus interpellés et attirés à Damas. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont venues et viennent encore à Soufanié pour prier. Des gens humbles, des illettrés, mais aussi des dignitaires du gouvernement, des intellectuels. Nous y avons rencontré le docteur Mansour, l'un des médecins personnels du président Reagan. Écoutons-le témoigner spontanément son enthousiasme d'avoir recouvré sa foi au milieu de la foule de Soufanié.
L'histoire a commencé aux États-Unis, a été donnée par un chanteur fameux par le nom de Tony Hanna. C'était un an après l'autre, mais il m'a convaincu, il faut venir ici pour voir moi-même. Alors, je suis venu l'année passée et j'ai tout trouvé comme des histoires, comme parfaitement a été donné par lui. Mais cette année, c'était bien fameux parce que je peux dire et jurer que j'ai vu avec mes deux yeux ce qui est arrivé, spécialement hier soir. C'était le baptême de la fille de Myrna. Et puis tout le monde a été bien triste parce que la Vierge Marie n'a pas fait quelque chose. Alors tout le monde priait de donner un signe pour ce monde-là, spécialement pour nous qui nous sommes venus des États-Unis. Et moi-même, je suis en train de prier pour deux jours. Et finalement, le soir après le baptême, Myriam a senti que quelqu'un il la guide, il la prend par sa main, il la fait descendre du terrasse où tout le monde a été le soir après le dîner. Et après avoir chanté une chanson pour la Vierge qui était bien connue, et c'est naturellement, presque dans tous les cas, lorsque le monde chante, c'est ça, avec une confiance, l'huile saute ou bien de la photo du Vierge Marie, ou bien dans les mains ou le corps du Myrna. Et c'est arrivé, j'étais très content, j'avais en même temps mon vidéo, et j'ai pris ça pour l'amener aux États-Unis pour le faire voir au monde là-bas. Mais cette fois-ci, c'est moi-même qui a pris la vidéo, c'est moi-même qui a vu avec mes deux yeux. Et je suis vraiment convaincu que cette histoire spirituelle est de vraie.
Myrna est plusieurs fois entrée en extase et a profité de plusieurs apparitions ou visions du Christ et de la Vierge Marie. Écoutons-la nous décrire les deux premières apparitions de la Vierge Marie.
أول ظهور كان بخمستاش كانوا الأول 1982 كنا عم نصلي بالأوضة لأنه
La première apparition eut lieu le 15 décembre 1982. Nous étions en prière dans notre chambre autour de la reproduction de l'icône que nous y avions mise dès la première fois qu'elle a exudé de l'huile. Il y avait le père Zarlaoui et des membres de sa chorale. On priait les louanges de la Vierge, appelé liturgiquement acatiste. J'ai senti quelqu'un me pousser à l'épaule. Ceux qui étaient autour de moi ont pensé que j'avais sommeil parce que je me penchais brusquement. Une amie, Gada Youssef Farhan, était assise à côté de moi. Elle me demanda ce que j'avais, si j'avais sommeil. Je lui dis « Non, je sens quelqu'un me pousser », alors que j'avais derrière moi le mur. Elle me dit de me lever, que peut-être j'allais voir la Vierge, voir Jésus. Je lui dis, « Tu blagues ? Ce n'est pas le moment de blaguer. » Je continuerai à suivre la prière. Ce n'était plus la prière de l'acatiste, mais le chapelet. Je ressentis la même poussée à l'épaule une deuxième, puis une troisième fois. Je n'en pouvais plus. Je dis à Gada, « Je veux sortir. » Elle me dit, « Sors, je t'accompagne. » Je lui tenais la main et nous sommes sortis de la chambre. Je lui lâchai la main. Je me sentais comme poussée et montais rapidement sur la terrasse. Gada m'a proposé de m'accompagner. Je lui fis signe que non. Je m'agenouillais sur la terrasse, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai fait instinctivement. J'avais la tête penchée jusqu'au sol depuis près d'un quart d'heure. Je relevais la tête. J'avais devant moi une très belle dame. Je n'ai compris que plus tard que c'était la Vierge. Je me suis enfuie. Je ne suis pas descendue dans notre appartement pour ne pas troubler la prière. Je me suis enfuie chez ma belle-sœur qui habite juste au-dessus de notre appartement, en face de la terrasse. Je l'ai réveillée. Il était environ 23h30. Je lui dis « La Vierge ». Les fenêtres de sa chambre à coucher donnent sur la terrasse. Je lui disais « Lève-toi, la Vierge, la Vierge ». Je voyais toujours la Vierge sur la terrasse. Ma belle-sœur ne voyait rien. C'était la première apparition de la Vierge. Le 18 décembre eut lieu la deuxième apparition. Le père Zarlaoui m'avait conseillé après la première apparition, « Mirna, il ne faut pas avoir peur. Personne n'a peur de sa mère. Il faut te fortifier, demander à Dieu la grâce, la force d'accueillir le message que la Vierge te donnera peut-être. » Le troisième jour, le 18 décembre 1982, j'ai senti aussi quelqu'un me pousser. Je montais sur la terrasse et m'agenouillais. Je me suis alors rendu compte que tout le monde m'avait suivi. Il était 23h30. Tous se sont agenouillés. Je croyais que l'apparition n'était pas pour moi seule, mais pour tous. Je vis une lumière qui s'illumina par trois fois dans le grand arbre qui était en face de la maison. Je vis une boule sortir et étinceler de lumière. La boule s'ouvrit, un croissant en sortit, bleu, puis apparut la Vierge assise sur la branche de l'arbre. Puis elle s'est mise debout et s'est dirigée vers nous. À 23h30, c'est la nuit et les ténèbres. Quand elle marchait, elle laissait derrière elle une traînée de lumière. Elle est passée à travers la balustrade de la terrasse et s'est immobilisée. Tout était lumineux, de la branche de l'arbre jusqu'au point où elle se tenait debout. Alors je leur dis, « elle est venue, la voici. » Quelqu'un me dit, « Où est-elle ?» Quand j'ai entendu cela, j'ai regardé avec plus d'insistance. J'ai eu peur d'être victime d'une illusion. J'étais étonnée qu'il ne voie pas ce que je voyais nettement. Je m'énervais un peu et je commençais à leur crier. « Mais la voici, vous ne la voyez donc pas ?» En disant « La voici », inconsciemment je lui ai touché le pied. J'ai senti que je l'ai vraiment touchée. Elle a un corps comme nous. Je me suis alors rappelé les recommandations du père Zarlaoui. « Sois forte ». Je ne cessais de la regarder jusqu'au moment où elle nous a donné le premier message. Elle était habillée d'une robe blanche, surmontée d'une cape, avec une ceinture bleue, un voile sur son épaule droite qui lui tombait à gauche jusqu'aux pieds, jusqu'au sol. Elle était très belle. Je ne peux pas mieux la décrire, les mots me font défaut.
Mirna, pouvez-vous nous décrire comment vous avez vu le Christ ?
Le 31 mai 1984, c'était le dernier jour du mois de Marie, le jeudi de l'Ascension. Donc, le jeudi de l'Ascension, il y eut une extase autour de 14h30. Avant l'extase, je parlais avec le père Malouli et je lui ai demandé s'il était possible que je voie Jésus. Il m'a répondu, « C'est peut-être possible, mais il faut payer le prix. » Aussitôt après cette conversation, il y eut donc une extase. Auparavant, l'huile a coulé de mon visage, de mes mains et de ma poitrine, mais surtout de mes yeux, et cela me causa une grande souffrance. Ensuite, j'entrai en extase. J'ai vu une montagne, une lumière, et au sommet de la montagne, j'ai vu Jésus, levant son bras droit, l'autre étant le long de son corps. Puis il me donna un message. Il était en haut, et en bas autour de lui, il y avait des bras tendus vers lui. Il m'a donné un très beau message.
Il convient de préciser que Mirna et Nicolas n'étaient pas des piliers d'église au début des apparitions, loin s'en faut. Rien dans leur attitude passée ne les prédisposait à vivre une aventure aussi extraordinaire. Tenez, voici le témoignage de Nicolas. Il me semble que tout homme qui a la tête sur les épaules et qui a vécu ce que j'ai vécu et qui a vu ce que j'ai vu, non seulement il ne peut qu'accueillir ces apparitions, mais aussi il doit faire plus que ce que j'ai fait moi-même, car Dieu nous a donné ici des signes pour nous inviter à réfléchir. Moi, dans le passé, j'étais loin de cette atmosphère de piété, loin de l'Église dans son ensemble, influencé par mes séjours en Europe. Je ne pensais pas aux choses religieuses. Elles n'effleuraient même pas ma pensée. Mais quand Dieu décide quelque chose pour l'homme, ce dernier l'expérimentera inévitablement. Quand je suis revenu au pays, je me suis marié avec Mirna. C'est une fille tout à fait normale. Elle aime s'amuser, elle aime rire. Enfin, elle est normale à 100%. Je ne remarquais rien d'anormal chez elle et elle ne manifestait pas un grand attrait pour la religion. D'ailleurs, si elle avait été aussi pieuse que maintenant, je ne l'aurais pas mariée. Elle n'avait rien de ce que certaines personnes lui imputent comme étant très pratiquante avant le mariage. Elle était croyante, elle priait un peu en se rendant aux offices. Mais la volonté de Dieu, quand il choisit quelqu'un. Il ne demande ni à vous, ni à moi, ni à qui que ce soit. C'est lui qui choisit et il est libre dans son choix. Tout a commencé pour nous 6 mois après notre mariage, exactement 6 mois et 18 jours. Par hasard, enfin nous disons par hasard, mais je suis convaincu dorénavant que c'est le plan divin. Comme nous sommes incrédules, nous refusons le plan divin et nous disons hasard. Mais tout est selon un plan divin, j'en suis sûr, dorénavant. Le fait est que de l'huile a coulé des mains de Myrna, chez ma sœur. Quand on me l'a dit, j'étais le premier à refuser d'y croire. Je plaisantais les femmes qui m'ont rapporté la chose. Je refusais donc de croire ce qu'on me disait. Je ne pouvais pas l'accepter. Une deuxième fois, ce fut chez sa mère. Quand ma sœur a été guérie après l'écoulement d'huile des mains de Myrna, cela me posait question, mais je n'acceptais pas le fait. Chez sa mère, le même fait s'est reproduit. Sa mère était malade, l'huile coula des mains de Myrna, elle lui enduisit le dos et sa mère fut guérie. Mes yeux ont vu cela, mais ma raison le refusait toujours. Ceci, c'était le 25 novembre 1982. Le 27, quand l'huile coula de l'image et des deux mains de Myrna, j'étais presque perdu. Qu'est-ce qui nous arrivait? Je n'en savais rien. Ces événements sont arrivés alors que Myrna priait. J'ignorais tout de la théologie, de l'Église, de la foi. J'étais ignorant de tout. Il était nécessaire que quelqu'un m'explique. Je contactais aussitôt l'Église, les prêtres sont venus ici, et ils ont dit que c'était une grâce de Dieu et que la Vierge nous a destiné cette grâce, qu'il nous faut la sauvegarder. J'entendais ces mots que ma raison n'acceptait toujours pas. Mes yeux l'acceptaient, comme je vous l'ai dit auparavant. Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour qu'il réfléchisse. Mais cette huile d'où venait-elle? L'huile a coulé pendant 3 jours de l'image. Cela est une action créatrice. Et qui en est capable? Personne, sinon le Créateur. Puisqu'il y a création et créature, Dieu donc existe. La Vierge existe, l'Évangile existe. De là, j'ai commencé à bâtir ma foi et à l'installer sur des bases. Les gens sont venus, des officiers, des services secrets aussi. Je dois les remercier pour ce qu'ils ont fait. En fait, j'avais besoin de savoir ce qui se passait. Ils ont fait en effet leur devoir et je les en remercie. Ils ont constaté tout d'abord que l'huile coulait bien des mains de Myrna alors qu'ils venaient de les lui faire laver et sécher. Ensuite, ils ont demandé l'image et l'huile a coulé. Ils l'ont remise dans son cadre. Ensuite, les choses ont évolué et il y a eu des apparitions.
أنا أقرب الناس لميرنا وبعرف ميرنا يعني يجوز الغريب البعيد عن ميرنا لما يسمع الأمور اللي عم تصير.
Je suis la personne la plus proche de Myrna. Je la connais bien. Il se peut qu'une personne étrangère éloignée de Myrna, entendant ce qui se passe à Soufanié, soit encline à ne pas croire. Et je ne lui en voudrais pas, car ce qui se passe ici est au-dessus des capacités de l'intelligence humaine, au-delà de l'imagination. C'est surnaturel. Au-dessus de la nature. Pendant les apparitions, écoutant les messages, je ne comprenais pas les messages dans leur ensemble. J'en comprenais les mots, mais le sens des phrases m'échappait. J'interrogeais des prêtres qui me les ont expliqués. Moi, je connais les possibilités de ma femme, possibilités scientifiques et culturelles. C'est une fille qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui n'est pas allée en université. Et je demandais à des prêtres, ces mots sont théologiques? Relève-t-il de la théologie et de l'Évangile? Et ils m'ont répondu, tout est Évangile. Moi-même, je me disais que Myrna n'était pas en mesure de composer de telles phrases. Elle n'avait pas une imagination suffisante pour inventer une telle histoire. Donc, les choses ont évolué jusqu'aux extases. L'extase de Jésus dont Myrna a parlé est, à mon point de vue, la plus grande extase, vu la profondeur du message. Je l'ai beaucoup aimé. Cette extase est celle qui eut lieu le 26 novembre 1985. Myrna y a vu le Seigneur Jésus qui lui donna un message dont je suis fier, car il résume la rédemption chrétienne. Il résume le sacrifice de Jésus pour nous, et il nous conseille de faire le sacrifice de nos vies pour lui. Telle est la religion chrétienne dans son ensemble. Il s'agit de s'anéantir soi-même pour les autres, c'est-à-dire que je me sacrifie pour autrui afin de grandir moi-même. Le Christ s'est sacrifié pour nous afin de nous tracer le chemin. Presque tous les messages et les extases appellent à la pénitence, à l'amour, à la foi, au pardon. C'est beau. Et nul à quelque religion qu'il appartienne, ne peut le refuser. Le christianisme est bâti sur l'amour, sur le pardon, sur la rédemption. Le Christ est le premier rédempteur. Il s'est sacrifié pour nous. En résumé, et bien simplement, je vous dis que pour moi, personnellement, je suis fier, grandement fier du fait que cela s'est produit dans ma maison. Bien que je n'en tire que des ennuis, mais j'en suis heureux. Je n'y ai aucun intérêt commercial ou matériel. Des gens viennent ici, nuit et jour, j'en suis fier, cela m'honore. Je résumerai mon expérience en deux mots. Avant le phénomène, j'étais aveugle. Depuis ce phénomène, mes yeux se sont ouverts. J'ai retrouvé la vue. Les pères Zarlaoui et Malouli, les deux propagandistes les plus convaincus et les plus convaincants des événements de Damas, ont bien voulu répondre à nos questions. Écoutons d'abord le père Zarlaoui.
Il s'agit d'un groupe d'hommes et de garçons, de jeunes de la chorale, qui étaient venus un dimanche, c'était le 28 novembre 82, aussitôt après la messe du soir, me dire qu'il y avait un phénomène à Damas, dans le petit quartier de Soufanié, une image de la Vierge qui laisse couler de l'huile. Ils tenaient à ce que j'y aille pour leur dire ce que j'en pensais. Je ne voulais pas y aller, tout simplement, quoi. Depuis ma petite enfance, j'étais contre ces phénomènes étranges. Il y en a eu tellement, depuis que j'étais gosse, à Damas même, jusqu'à l'année 1978, le 20 juillet, où on avait dit que la Vierge avait pleuré dans une des églises de Damas. Donc j'étais prévenu, et plus que prévenu, je refusais. L'insistance des jeunes m'a étonné, sachant mon tempérament, et d'habitude les décisions que je prends, j'y tiens, quoi. Et ils sont revenus à la charge à trois reprises. Finalement, je me suis dit, bon, fais leur plaisir. Et j'ai été, et ce que j'ai vu là, ce soir même, m'a vraiment étonné. J'ai été en rendre immédiatement compte à mon évêque, alors que d'habitude, je suis très indépendant. Il m'arrive de prendre n'importe quelle initiative sans même en référer à mon évêque. Peut-être que je lui en parlerai un jour, un an après, ça dépend, ou que d'autres personnes
lui diront la chose.
Lui diront la chose, oui. C'est alors que je lui en parlerai et je m'explique. Mais cette fois-ci, je me suis vu comme poussé intérieurement, pas je ne sais plus quoi, pour aller le voir. Et aussitôt après l'avoir vu, j'ai été voir un dermatologue, l'un des plus grands qui se trouve dans le pays, le docteur Jean Siage. Et lui aussi, il n'en revenait pas de ma question. Il croyait que quelque chose m'avait pris à la tête, quoi. Mon évêque, lui, m'avait dit, continuez à suivre le phénomène, mais fais attention. Le docteur lui m'a dit, père, ne vous laissez pas berner, hein, allez la déshabiller, et vous allez constater qu'il s'agit d'une supercherie. Hein. Parce que je leur avais raconté comment j'ai vu l'huile non pas sointé, mais dégouliné des mains de Myrna et coulé de l'image. Alors que aussi bien l'image que les mains de Myrna étaient complètement sèches. Et Myrna était en prière, on était seul à prier. Ce n'était pas la première impression qui m'a convaincu, loin de là. J'étais resté sur mes réserves.
Père Zarlaoui, quels étaient donc les doutes que vous aviez à ce moment-là?
A priori, je voulais comprendre rationnellement les choses. Apparemment, rationnellement, moi-même, je n'étais pas outillé suffisamment du point de vue scientifique pour m'en rendre compte. L'ambiance de prière me laissait croire que il y avait quelque chose de vrai, d'autant plus qu'on constatait que l'ensemble de la famille de Myrna, son mari, son père, sa mère et tout le monde étaient vraiment sidérés par ce qui arrivait.
Quelle était leur attitude à ces gens-là?
Une attitude d'étonnement et d'accueil. Et ils cherchaient à comprendre ce qui se passait. Si bien que, voyant un prêtre arriver, on avait l'impression qu'ils s'accrochaient à lui pour qu'il leur dise ce qui arrivait. Et quand, le lendemain même du début du phénomène, le 28 novembre, un groupe des services secrets syriens sont arrivés avec un médecin, à titre officiel, les parents de Myrna et son mari ont été soulagés de voir que même le gouvernement venait pour enquêter. Et ils avaient besoin d'être mis au clair, eux aussi, sur ce qui leur arrivait. Donc, pour moi, une recherche nationale, je n'étais pas outillé suffisamment pour ça. Mais on a sa raison. Et on cherche à comprendre. Une huile qui coule d'une petite image, ça ne s'explique pas scientifiquement. Dans le papier, il n'y a pas suffisamment d'huile. Il n'y a pas d'huile. Sur un petit verre qui mesure 6 cm sur 8 cm, d'où peut sortir l'huile? Par la suite, j'ai vu l'huile couler, pas seulement couler, mais bouillir sur le verre de l'image. C'était la nuit du 12 décembre. Ça formait des bulles qui grossissaient et qui éclataient. Ça a duré 4 heures exactement. Donc, rationnellement, je ne voyais pas d'explication. Je cherchais à comprendre. J'ai eu un tas de discussions avec des gens qui venaient aussi pour comprendre, qui m'avaient demandé mon avis, des scientifiques, des médecins, et on n'en sortait pas. On n'en sortait pas. Pour moi, j'ai passé en revue toutes les possibilités, depuis les possibilités, disons, scientifiques, autant que je pouvais en juger, grâce à des amis scientifiques, jusqu'aux possibilités de magie. La sincérité manifeste de Myrna, de son mari et de la famille, excluait toute possibilité de supercherie. Ce n'était pas possible. Pendant des jours, m'était restée l'idée d'une intervention diabolique, ce qui était très possible, quoi. Mais bien que en contradiction avec l'ambiance de prière, de sincérité, vrai. Et puis lentement, au fur et à mesure que le phénomène se développait, on se rendait compte que le doigt de Dieu devait être là. C'est pas possible. Et un beau jour, j'ai fini par dire à mon évêque, même Monseigneur François Aboumach, eh bien, si le démon est capable de faire une chose pareille, d'inviter les gens à la prière, à la conversion, à la pénitence, à l'amour, et à ouvrir la maison à toutes sortes de personnes, aussi bien malades que bien portantes, pendant des jours entiers, des semaines entières et des mois entiers, dans la plus grande gratuité, si le démon est capable de faire des choses pareilles, c'est qu'il s'est converti, bel et bien, quoi, converti. Donc j'ai passé en revue toutes les possibilités d'explication. Finalement, il fallait bien se rendre à l'évidence. Dieu est là, et Dieu est. Pourquoi lui interdire la possibilité d'intervenir? D'autant plus que certaines journées nous rappelaient, je dirais textuellement, ce qu'on lisait dans l'Évangile, ou ce qu'on avait lu dans l'Évangile. Certaines guérisons qui se sont passées sous nos yeux, la simplicité des gens, la spontanéité dans leurs prières, leur effusion dans les moments de prière, alors qu'on est habitué à une prière liturgique dans les églises, où tout est réglé, où les laïcs n'ont aucune initiative, voir des gens qui venaient prier à haute voix, spontanément, devant n'importe qui, en toute humilité, finalement, pour moi, c'était l'évidence que Dieu était là. Et comme je vous l'ai dit, c'était presque une façon de lire l'Évangile à nouveau à travers ce phénomène.
Et au bout de 5 ans, est-ce que vous pouvez faire la part de ce que l'on pourrait appeler la nécessité de l'intervention de Dieu à travers ce phénomène? Pourquoi le doigt de Dieu s'est-il posé sur ce petit quartier de Soufranier ici à Damas?
Il faudrait être Dieu pour répondre à cette question. Mais autant qu'on en puisse juger, le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. C'est sa liberté à lui. Ce qu'il fait, lui, qui peut prétendre le comprendre? Je crois que Soufania n'est pas indépendant du monde. Il se peut que ce qui se passe à Soufania soit l'un des canaux de ce qui se passe un peu ailleurs, à Medjugorje ou ailleurs, quoi. Et dans un monde comme le nôtre, où tout est si accaparé par l'argent, où tout est soumis à une pression de haine, de distorsion de toutes les valeurs, quoi. On a bien l'impression que, en dépit de tout, quoi, on est impuissant à pouvoir changer quoi que ce soit, sinon dans une limite très réduite. Et il faut bien que Dieu intervienne. Je ne cherche pas à justifier ce que Dieu fait. Je cherche à comprendre, tant soit peu qu'on puisse comprendre, quoi. Mais avoir les effets, les conversions, l'appétit de prière des gens, leur avidité à venir, même à venir voir ces signes extraordinaires d'huile, de stigmate, etc., on lit nettement dans tout cela qu'au fond des gens, il y a une soif de Dieu et que Dieu seul pouvait assouvir. Je crois que dans les structures habituelles de l'Église, on a trop endormi Dieu, on s'est trop endormi dans nos rites, et il me semble que Dieu est là pour essayer de nous secouer à sa façon à lui, très simplement, mais alors sur une très longue échelle.
Et pour vous-même, qu'est-ce que ces événements vous ont apporté personnellement ?
Une libération immense.
Quelle sorte de libération ?
En dehors de Dieu, il n'y a rien. Absolument. Bien sûr, quand je dis en dehors de Dieu, je dis aussi l'Église.
Vous êtes libéré du monde au profit de Dieu.
J'espère. Je vis cela de plus en plus. Ça a été, je dirais, une poussée en plus dans un sens que je cherchais comme prêtre depuis des années, au niveau de ce qu'on peut appeler l'arrivisme ecclésiastique, au niveau de ce qu'on peut appeler le souhait du pouvoir, la servitude de l'argent. Je cherchais toujours à m'en libérer. J'y ai peut-être un peu réussi avec ce phénomène. Je crois avoir plongé dans une espèce de manfoutisme par rapport à tout cela. C'est méchant de le dire peut-être, c'est mal dit, mais c'est un peu ça, quoi. C'est une libération extraordinaire.
On dit ici à Damas que certaines personnes vous attaquent. Vous, l'intellectuel, il est bien connu que vous appartenez à un certain nombre de cercles littéraires, de cercles scientifiques. On vous invite à des réunions, sur des réflexions, sur des thèmes modernes. Et j'ai entendu dire ici à Damas que vous étiez parfois violemment attaqué. Vous, l'intellectuel, voilà que vous occupez des bondieuseries, dit-on.
Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, quand vous m'avez dit qu'est-ce que ça vous a rapporté, j'ai failli dire aussi beaucoup de souffrance. Mais la souffrance de quelqu'un qui aime et qui voudrait que les gens voient que Dieu est là et qu'il les aime aussi, c'est pas du tout une affaire de bondieuserie. Hein. Quand Jésus en Palestine semait la bonne parole et faisait des signes à travers lesquels il tenait à manifester sa présence divine, ce n'était pas du tout des bondieuseries. Ce qu'il a fait en Palestine, il lui est permis d'essayer de le refaire un peu ailleurs aussi, mais à sa façon. Moi, je mets au défi ceux qui m'ont attaqué et ceux qui continueront de m'attaquer, aussi bien dans les rangs ecclésiastiques qu'ailleurs. Et il m'est arrivé de les défier en face. Je les mets au défi de me donner une explication aussi bien sur l'ensemble du phénomène que sur certains détails de ce phénomène. L'huile a coulé et continue de couler. Est-il normal que l'huile coule d'une petite image de rien du tout, d'un petit papier, d'un petit verre? Est-il normal que des stigmates apparaissent sur le corps de Myrna, que le jour même les stigmates disparaissent, la première fois ou la deuxième fois que ça a apparu? Est-il normal que les stigmates, la dernière fois où ils ont apparu le 16 avril, jeudi 5/87, que la blessure du côté qui mesurait 12 cm, 24 heures après, est complètement disparue? Est-il normal?
Après le père Zarlaoui, je vous invite à rencontrer le père Malouli. On m'avait présenté le père Malouli comme un homme bourru, répondant aux questions en phrases à l'emporte-pièce, D'ailleurs, de l'époque où il était professeur au collège Lazaris de Babtouma, il conserve la réputation d'un homme très sévère. Mais derrière ce caractère rugueux se cache un homme sensible, attentif à son prochain, d'une piété profonde et d'une dévotion toute filiale pour la Vierge Marie. Tout le monde était surpris qu'il s'intéresse à Souffagnier. Il nous explique comment cela est arrivé.
Par tempérament et par formation, je suis plutôt réfractaire à toutes ces manifestations un peu, tant soit peu extraordinaires. Souffagnier même, j'ai appris la chose le deuxième jour, c'est-à-dire le jour où les quatre agents de la sûreté sont allés avec un médecin pour examiner Myrna, examiner l'icône. J'ai appris la chose le soir, vers 20h du soir. Et le jeune homme, qui avait une petite barbiche, qui m'a annoncé la chose, m'a dit, venez avec moi, vous verrez de vos propres yeux l'huile couler de l'icône. Je lui ai répondu, écoutez, je ne nie pas a priori, mais moi je porte une soutane et je ne veux pas engager l'Église dans une affaire dont j'ignore la tête et la queue. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il m'a dit, mais venez, venez, venez. J'ai refusé et je suis resté dans cet état d'esprit environ une quinzaine de jours, entre 12 et 15 jours. Et pourtant, je passais plusieurs fois, pas très loin de la maison, mettons à 100 mètres de la maison. Et parfois, je rencontrais des gens sur le trottoir qui me disaient, est-ce que vous êtes allé à Souffagnier? Je leur répondais non. Ils me disaient, mais allez-y maintenant. Je disais non, quand ça me plaira, j'irai voir. C'est un lundi, si je ne me trompe, que je décidais d'y aller avec mon supérieur, le père Pierre Farah, et la supérieure des filles de la charité. Ça devait être vers les 9h du matin, par là. On nous a très bien accueillis à la maison. Il faut dire que je ne connaissais ni la maison, ni la famille, ni le bâtiment lui-même. Nous sommes entrés, nous ont accueillis très, très gentiment, et je ne suis pas allé pour voir l'huile. L'huile ne m'intéressait pas. Nous ont reçus au salon, qui sert aussi de salle de séjour. Je me suis assis à côté de Myrna, puis j'ai posé des questions. Je me rappelle malheureusement, je ne me rappelle plus les questions que je lui avais posées, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait deux questions qui exigeaient une réponse plutôt théologique. Cette réponse m'a été donnée. Alors, je suis sorti de là avec la conviction qu'il n'y avait pas de triche, il n'y avait pas de supercherie. Mais qu'est-ce qu'il y avait au juste, je l'ignorais. Et j'ai décidé, à partir de ce jour-là, de venir me mêler au peuple, n'est-ce pas, pour prier. Ensuite, il m'est arrivé à plusieurs reprises de demander aux gens de la maison s'il avait eu des apparitions. D'abord, ils ont nié, parce que les pères leur avaient dit, n'en parlaient à personne. Ensuite, j'ai posé la question, une deuxième fois encore, est-ce qu'il y a eu des apparitions? Ils m'ont dit oui. Par conséquent, je conclus que la première fois que j'avais posé des questions, les apparitions n'avaient pas encore eu lieu. Alors j'ai posé une deuxième question. Est-ce que la Vierge a parlé, a dit quelque chose? Est-ce qu'elle a livré un message? Ils m'ont dit non. Et je suis resté sur ce nom-là jusqu'au 21 février.
De quelle année?
83. 21 février, c'était le soir où l'icône avait été ramenée par deux prêtres à la maison, sans aucun préavis.
Oui, cette icône venait de...
Elle avait été transférée à l'église de la Sainte-Croix, distante d'environ 500 mètres par là, le dimanche 9 janvier 83. Et elle est restée là-bas jusqu'au 21 février. Le 21 février, dans l'après-midi, j'entrais à la maison, j'ai entendu des éclats de voix au salon. Comme je ne connaissais pas encore bien la famille, je suis resté dans la cour, j'ai pris la boîte qui contenait du coton imprégné d'huile pour en faire de petites pastilles entourées de nylon et les distribuer aux gens qui en demandaient. Peu après, je vois deux prêtres descendre les deux marches du salon et puis sortir. Les gens de la maison sont venus me raconter ce qui s'était passé. Moi, intérieurement, n'est-ce pas, j'ai été très, très peiné et j'ai même eu peur des conséquences graves que pouvait entraîner cette démarche. Les gens de la maison ne comprenaient pas qu'une icône transportée à l'église en grand triomphe revienne d'une façon si humble. Alors ils ont réagi, évidemment, ils ont réagi violemment. Le soir, on a récité la prière comme tous les soirs. Puis je suis resté, après la prière, je suis resté à la maison. Vers 9h, 21h par conséquent, je demande à Myrna d'aller avec elle en chambre pour prier à l'écart, à nous deux. Elle a accepté, nous sommes entrés. Il y avait une petite icône sur la commode. Elle s'est agenouillée devant elle. Moi, je me suis agenouillé derrière. Nous avons récité ensemble une dizaine de chapelets. Puis, chacun a continué sa prière, mais intérieurement. Moi, j'ai fait une demande à la Vierge. Vierge, éclaire-nous pour que nous ne commettions pas de gaffes préjudiciables à ton programme. J'ai dit ça intérieurement. Aucun mouvement de lèvres. D'ailleurs, la chambre était plutôt obscure. Il y avait une petite veilleuse qu'on avait allumée, simplement. Et Myrna était devant moi, par conséquent, elle ne pouvait pas voir le mouvement de mes lèvres. On a continué. Puis tout à coup, je vois Myrna se lever. Et sans crier gare, elle quitte la chambre. Son beau-frère était assis sur une chaise dans la courette. La voyant monter les escaliers, il m'appelle. Abuna, Abuna, c'est-à-dire père, père. Myrna est montée à la terrasse. Immédiatement, j'arrête la prière, puis je la suis. Toutes les personnes qui étaient présentes à la maison ont fait la même chose. Ils nous ont suivis sur la terrasse. Sur la terrasse a eu lieu l'apparition. Personne n'a rien vu. Seulement, nous avons entendu Myrna répéter les paroles de la Vierge. Dans ce message-là, qui a été livré en langue arabe dialectale, la Vierge nous encourageait à l'humilité. Elle nous a encouragé au pardon, à la réconciliation. Et à un moment donné, elle a dit, j'ai une demande à vous faire, un mot que vous graverez dans votre mémoire, que vous répéterez tous les jours. Dieu me sauve, Jésus m'éclaire, le Saint-Esprit est ma vie, c'est pourquoi je ne crains rien. N'est-ce pas mon fils Joseph ? Joseph, c'est mon prénom. Et à Damas, où je suis depuis 1940, sans aucune interruption, malgré les milliers d'élèves dont je me suis occupé, les parents, etc., excessivement rares étaient ceux qui connaissaient mon prénom. On connaissait le père Malouli parce que j'étais plutôt sévère à l'école, mais quant à mon prénom, bien, il était ignoré. Alors quand l'apparition a eu lieu et qu'on est descendu au salon, tout le monde se demandait qui était ce Joseph dont le prénom a été cité par la Vierge. Bien, j'ai dû leur expliquer ce qui m'était arrivé vers 21h quand j'étais en prière avec Myrna. Et j'ai tiré ma carte d'identité pour leur montrer que
je m'appelais bien Joseph.
Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai acheté un magnétophone. Je me suis dit, si jamais il y a une nouvelle apparition ou quelque chose, je pourrais enregistrer sur cassette, n'est-ce pas, ce qui se passerait. Le 24 mars, à 18h, il me manquait encore les deux batteries de moyenne. J'avais acheté des batteries qui étaient trop grandes et n'entraient pas dans le magnétophone. Et des moyennes, j'en trouvais pas. Il y a un jeune homme de l'université qui était là. Je lui ai dit, écoute, à n'importe quel prix, trouve-moi deux batteries moyennes. Il est allé, il a fouillé, enfin, je ne sais pas où. Enfin, il m'a, de toute façon, vers 20h, j'avais les deux batteries. Je les ai installées dans le magnétophone. J'avais pris la précaution de fixer sur le magnétophone avec du papier collant un crayon Bic que j'avais d'abord pris la précaution de
vérifier,
d'essayer, et ensuite une grande feuille de papier. Et vers 9h15, 21h30, Myrna est allée est montée sur la terrasse. Tout le monde l'a suivi. Nous étions environ une quinzaine de personnes. Les détails, n'est-ce pas, se trouvent dans le dossier. Et à ce moment-là a eu lieu la dernière apparition de la Vierge.
Oui, ensuite il y aura des apparitions de Jésus.
Non, il n'y a jamais eu d'apparition du Christ. Il y a eu des visions. Il y a eu des visions, n'est-ce pas, au cours des extases. Myrna voyait tantôt le Christ, d'abord la Vierge, ensuite la première fois qu'elle a vu le Christ durant son extase, c'était le jeudi de l'Ascension, 31 mai 1984. Cette année-là, la fête de Pâques était commune entre orthodoxes et catholiques. La Vierge est apparue portant son chapelet entre les deux derniers doigts, et puis elle portait entre l'index et le pouce le triangle qui sépare les deux branches de
la petite médaille centrale.
La petite médaille centrale. Et s'est approchée de Myrna. Nous autres, nous ne voyons absolument rien. Myrna la voyait. Quand Myrna a vu la Vierge s'approcher d'elle, nous étions tous à genoux. Moi, j'étais à gauche de Myrna, son mari était à sa droite, puis il avait les autres gens. La Vierge s'est approchée de Myrna. Myrna a tendu les bras et a ouvert les mains, comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui demande l'aumône. La Vierge a posé son chapelet au-dessus des mains de Myrna, et on a vu un flot d'huile qui est tombé de la...
De la croix
On ne voyait pas la croix.
Oui, c'est Myrna qui vous l'a dit après.
Oui, c'est Myrna qui nous l'a dit. Mais on voyait l'huile, n'est-ce pas, couler au-dessus des mains de Myrna, sur les mains de Myrna et sur le sol.
Ah oui, alors le filet d'huile se formait comme ça en l'air.
Vous voyez on voyait l'huile, mais on ne voyait pas la source de cette huile-là.
De cette huile. Ouais.
Et ce jeune homme, l'universitaire qui m'avait procuré les deux batteries, voyant l'abondance d'huile, n'est-ce pas, qui coulait, s'est jeté par terre, il a ouvert les deux mains, s'en est rempli les mains, puis il s'en est lavé la figure. Et c'est pour cela que sur la terrasse, on voit comme un petit bassin.
Un petit muret.
Un petit muret, n'est-ce pas, pour... On l'a mis exprès pour empêcher les gens de marcher sur la grande tache d'huile qui était tombée des mains de la Vierge Marie. Et après cela, Myrna s'est levée et avec son doigt, il est passé devant tout le monde et nous a signé avec son index. Signé toutes les personnes présentes.
Sur le front.
Sur le front. Puis ensuite, se tournant vers le sud, c'est-à-dire le côté d'où la Vierge venait, parce que la Vierge apparaissait d'abord sur un eucalyptus, et ensuite elle venait de l'eucalyptus sur la terrasse, en laissant derrière elle un sillage de lumière. Elle a fait, par conséquent, s'est dirigée vers le sud, du côté de l'arbre, et elle a fait un signe avec son pouce, un signe de croix en l'air. Ce geste m'a étonné. À la fin de l'apparition, j'ai demandé à Myrna, mais pourquoi as-tu fait le signe de croix en l'air? Elle m'a répondu, la Vierge m'a dit de vous signer avec l'index et elle de la signer avec le pouce. Ensuite a eu lieu, alors la Vierge a donné son message et dans ce message-là, elle insiste énormément sur l'unité de l'Église ainsi que sur la prière. Quatre fois, elle a répété le mot « prier ». En une phrase, elle a dit « prier, prier et prier ». Et la dernière phrase, prier pour les habitants du ciel et de la terre. Et elle insistait énormément sur l'unité de l'Église. Et cette insistance, pratiquement, a été accompagnée d'une attitude très nette pour nous, de la Vierge, dans ses rapports avec nous. Nous avons constaté depuis 83 jusqu'à cette année, 87, que les années où la fête de Pâques était célébrée en commun et par les orthodoxes et les catholiques, il se produisait à Sophanié énormément de belles choses, tandis que les années où la fête différait ne fût-ce que d'une semaine, il ne se produisait rien du tout. L'icône ne donnait même pas une goutte d'huile, ni à la fête orthodoxe, ni à la fête catholique. Et bien, évidemment, toutes ces belles choses-là, n'est-ce pas, m'ont ancré davantage encore dans la conviction qu'il se passe quelque chose de céleste à Sophanié. Et je peux vous assurer que depuis que je me suis branché sur la ligne, eh bien, nous vivons un rêve céleste. Et certains jours, nous palpons, pour ainsi dire, la présence de la Vierge parmi nous.
Jésus-Christ a donné des signes à ses premiers disciples. Qui oserait prétendre démontrer l'inutilité des signes pour ses disciples d'aujourd'hui? Au-delà de l'événementiel qu'il est nécessaire de rapporter afin qu'il remplisse son rôle, nous interpeller. il convient d'accueillir le message qui est délivré à Souphanié, ainsi que le rappelait le père Malouli. Le 7 septembre 1985, pendant une extase au cours de laquelle Myrna avait vu le Christ, le message qui nous a été délivré est le suivant. « Je suis le Créateur. Je l'ai créé pour qu'elle me crée. Réjouissez-vous de la joie du ciel, parce que la fille du Père et la Mère de Dieu est l'épouse de l'Esprit, est née. Exultez de l'exultation de la terre, car votre salut est réalisé. » Il est étonnant de constater qu'en 52 mots, ce message synthétise le dogme catholique. Ainsi, on y trouve l'affirmation du mystère de la Sainte Trinité, le rôle du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, le rôle de la Vierge Marie, le mystère de l'Incarnation, le mystère de la Rédemption, la communion des saints et la joie du salut. Étonnant, n'est-ce pas? Mais ce qui sera encore plus étonnant, ce sera de découvrir ce que Dieu réserve à chacun d'entre nous et qui est au cœur de notre prière, ainsi qu'il l'est encore rappelé à Souphanié. Priez, priez, priez.